On attend que la collecte se finisse. Les enfants, ils vont sortir aussi. Eh bien, nous voulons prier pour les enfants, Seigneur, pour ceux qui s'occupent d'eux. Seigneur, qu'il y ait le Saint-Esprit avec eux, encore plus fort qu'avec nous. Non, ce n'est pas possible, il est fort avec tout le monde. Qu'il y ait la parole de Dieu avec eux, qu'il y ait la grâce de Dieu, qu'il y ait l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et avec nous aussi, Seigneur, fais-nous comprendre, fais-nous recevoir cette parole, cette belle parole que tu nous as donnée dans l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, je vais aujourd'hui vous parler de résurrection. Vous êtes étonnés ? C'est Pâques, le Seigneur est ressuscité. Amen. Amen. Il est vraiment ressuscité. Et alors, vous allez peut-être trouver ça curieux, mais ça ne l'est pas. Dans ma carrière, j'ai fait des enterrements, j'en ai trop fait, je veux dire. Et quand j'ai dit, mais je voulais collecter des passages sur la résurrection, et où je suis allé chercher mon classeur où j'avais mes textes sur les enterrements. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait dans les enterrements ? On proclame la résurrection, dans le cimetière, là où il y a le mort, là où il y a des morts partout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Mais je proclame que Jésus-Christ est ressuscité. Et alors, je vais commencer par vous lire un roman. Rassurez-vous, il est gros. Là, je vais lire juste la fin du roman. Bon, il est connu, c'est Le nom de la rose d'Umberto Eco. Certains ont peut-être vu le film. Comme d'habitude, si vous avez vu le film, qui est bien aussi, je vous conseille de lire le livre où il y a beaucoup plus de choses. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'est un roman historique qui se passe dans un monastère à la fin du Moyen-Âge. Et le moine qui raconte cette histoire à la fin du roman, il est vieux et puis il parle de la mort. Alors il faut que je sélectionne parce qu'il parle en dans le roman, il parle en français, mais aussi en latin, en allemand, tout ça, il y a un mélange pas possible. Et voici comment il parle de la mort. Écoutez bien, je vais commencer par vous parler de la mort. Parce que c'est important la manière dont on imagine la mort. Après la mort, bien sûr. Avant. On en voit assez. On voit des gens aller vers la mort, plus ou moins bien, avec plus ou moins de souffrance, on sait comment ça se passe. Mais comment on imagine après ? Il dit ceci, « D'ici peu, je me réunirai avec mon principe, et je ne crois plus que ce soit le Dieu de gloire dont m'avaient parlé les abbés de mon ordre. » C'est un moine. « Ou le Dieu de joie, comme croyaient les minorités d'alors, peut-être pas même le Dieu de pitié. Je m'avancerai bientôt dans ce désert immense, parfaitement plat et incommensurable, où le cœur vraiment pieux succombe, bienheureux. Je m'abîmerai dans la ténèbre divine, en un silence muet et en une union ineffable, et m'abîmant, seront perdues toute égalité et toute inégalité, et en cet abîme, mon esprit se perdra lui-même, et il ne connaîtra ni l'égal, ni l'inégal, ni rien d'autre, et seront oubliées toutes les différences. Je serai dans le fondement simple, dans le désert silencieux où jamais l'on ne vit de diversité, dans l'intime où personne ne se trouve dans son propre lieu. Je tomberai dans la divinité silencieuse et inhabitée où il n'est ni œuvre ni image. C'est beau, hein ? C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et pourtant, si j'ai lu ça, c'est parce que j'ai eu récemment une conversation avec une personne qui m'a dit à peu près la même chose. Qui m'a dit, c'était un monsieur cultivé, hein, instruit, et à mon avis franc-maçon. Je dis à mon avis, il ne me l'a pas dit, mais je devine. Il m'a dit, ben, finalement, tout vient du rien. Au début, il y a le rien, il y a les ténèbres, et puis hop, il y a des trucs qui émergent. Et la vie, c'est ça, c'est des choses qui émergent du rien, puis on finit par retomber dans le rien, à la fin. Tout vient du néant et va se terminer dans le néant. Pff, Moi, je lui dis, est-ce que vous vous rendez compte que si les choses sont comme ça, ça veut dire que la toute-puissance est dans le rien. Et nous, qui ne sommes pas rien, hein, mine de rien, si j'ose dire, on est ce qu'on est, mais enfin, on est quelque chose, quoi, on existe. Eh ben, on serait comme une petite erreur, là, par inadvertance, il y a un machin qui a émergé du rien et qui va bientôt retomber. Que c'est triste! Et que ça explique aussi pourquoi cette culture de mort qui y a dans notre société. Si vous avez des problèmes, mourrez. Ça résout les problèmes. Il ne reste plus rien après. Voilà. Moi, je dis, mon avis, c'est le point de vue des dépressifs. C'est pas le point de vue de Jacques, non, il n'est pas là, il n'est pas encore revenu, parce que lui, il a renié cela. Mais celui pour qui, ou celle pour qui, la vie, c'est un machin pénible. Pour vivre, il faut faire des efforts. Vivre, ça implique qu'il y a des souffrances, des problèmes. Et puis un jour, ouf, enfin, plus rien. Et il ne croit plus au Dieu de gloire, il ne croit plus au Dieu de lumière, il ne croit plus au Dieu de joie. Vous avez entendu, hein, c'est tout ce qu'il dit là, dedans. Ben moi j'y crois. Voilà. Et que si je suis, effectivement, dans mon existence, j'ai une existence qui a sa part de joie et de lumière, il faut le dire quand même. Il y a quand même des trucs bien. Hein. Quand ma petite fille, elle est là, je suis content. Hein. Il y a quand même des trucs bien. Il y a des trucs qui nous soulèvent de joie, de contentement. Ah, et puis il y a des trucs, ben, faut s'arracher. Hein. Faut souffrir. Si on veut progresser, c'est dur, c'est difficile. Il y a des peines, il y a des problèmes qu'on ne résout pas. C'est dur. Et alors, où on va ? Vers le triomphe de la joie ou bien vers le triomphe de tous ces petits problèmes ? C'est-à-dire qu'ils vont finir par nous vaincre, nous écraser. Il faut choisir. C'est quoi la résurrection ? Est-ce qu'il y a une résurrection des morts ? Alors, je vais prendre... Alors là, j'avais un chant, mais je crois qu'ils n'ont pas réussi à le faire passer. C'est dommage. Je l'ai fait comme pour le culte du Vendredi Saint. J'avais trouvé un chant qui parle de résurrection. Je vais le lire quand même. Le chant dit que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». Vous voyez, c'est un chant pour s'élever vers le haut et pas vers le bas. Que l'aveugle dise « je vois, car le Seigneur agit en moi ». Hosanna à l'agneau immolé, Hosanna, Jésus est ressuscité. Je traverserai la rivière, car mon Dieu m'a pardonné. Au torrent qui vient du Père, j'ai puisé grâce, amour et paix. Et plus, je reviendrai des profondeurs, dans les bras de mon Sauveur. Je chanterai de tout mon cœur, Jésus-Christ m'a libéré. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Jésus est ressuscité. Alors il faut qu'il nous convainque, hein. Moi je me dis, qu'est-ce qui nous fait croire en la résurrection ? Là, je vous ai assez lu des romans, maintenant je vais quand même vous lire un peu la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, moi ça me paraît le texte de base, parce qu'il y avait parmi les Juifs au temps de Jésus des gens qui croyaient qu'il y avait une résurrection des morts et des gens qui n'y croyaient pas, parmi les Juifs, hein, parmi les religieux juifs. Et Jésus, il tranche. Ah, pour le coup, il tranche. Hein. Il ne fait pas de la théologie un peu louvoyante, là, compliquée. Alors, pour le piéger, on lui raconte une histoire abracadabrante d'un homme qui aurait eu successivement plusieurs femmes. Non, l'inverse, ils font. Une femme qui a eu successivement plusieurs hommes. Puis il dit, ah, la résurrection des morts, ce sera qui son mari, puisqu'elle en a eu plusieurs. Voilà. Le piège pour essayer de montrer que ça ne tient pas debout, la résurrection des morts. Et Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. comme en un mot comme ça. Et à qui Dieu a-t-il dit ça ? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était à Moïse. Moïse, il était quand même environ, si je ne m'abuse, 600 ans après Abraham. Il y avait du chemin qui avait été fait, du temps. C'était déjà à l'époque leurs ancêtres lointains. Et Dieu se présente à Moïse en disant « Je suis le Dieu d'Abraham ». Dieu n'est pas le Dieu d'un mort. Et Dieu, ce n'est pas la mort. Il est le Dieu des vivants. Tout simplement par cette proclamation, si Dieu lui-même se réclame d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce qu'ils sont vivants. Il ne va pas se réclamer des morts. Alors, pour moi, c'est l'argument de base. Qu'est-ce qui me fait croire qu'il y a une résurrection des morts? C'est parce qu'il y a un Dieu vivant. Voilà. Ce n'est pas ma peau qui me prouve qu'il y a une résurrection des morts. Ma peau, à moi, elle n'est pas trop en train de ressusciter en ce moment. Oui, mais Dieu, c'est le Dieu de quoi? Du néant ou le Dieu de vie? C'est lui. Voyez. Et lui, il est vivant. Et si j'existe pour lui, si je compte pour quelque chose, pour Dieu, c'est pourquoi? Si on meurt, qu'on est anéanti, ça veut dire qu'on compte pour rien. Et que c'est faux, tout ce qu'on raconte. On compte pour rien, pour le Seigneur. S'il n'y a pas de résurrection des morts, dit Paul, mangez, buvez, profitez, demain vous mourrez. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espérance. Oui, ce qui fonde la foi en la résurrection des morts, c'est la foi en Dieu qui est vivant. Et qu'entre lui et nous, il y a un lien, il y a quelque chose. Savez-vous ce que veut dire le mot « Amen » ? On le dit tout le temps. Pardon ? L'accord, oui. L'accord, mais au sens d'un accord de relation. Vous voyez ? Amen, ça veut dire c'est vrai, ça veut dire c'est sûr, c'est une approbation, c'est comme la signature à la fin du contrat, c'est comme l'authentification de la prière, mais justement c'est une prière. C'est-à-dire quelque chose qui fait le lien entre Dieu et nous, et on dit Amen, on dit c'est vrai, c'est sûr, ça tient le choc, ça tient le coup, cette prière, c'est la prière qui tient le coup, c'est le fait d'être en relation avec le Seigneur. Amen, vous savez, il y a un mot en hébreu apparenté, emouna, vous voyez tout de suite la ressemblance du mot, ça veut dire fidélité. Fidélité. La fidélité, c'est un mot essentiellement relationnel. Eh bien, notre Amen, c'est-à-dire si je suis sûr de quelque chose, si je suis sûr que quelque chose est vrai, c'est à cause de ce lien qu'il y a entre Dieu et moi, que le Seigneur permet, que le Seigneur a restauré en Jésus-Christ, qu'il a réconcilié. C'est ce lien, c'est celui-là qui vaut quelque chose, qui vaut un « Amen ». Ça, c'est vrai, ça, c'est sûr, ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et c'est cet « Amen-là » qui fait la résurrection des morts. Je participe, je suis quelqu'un aux yeux du Dieu vivant. C'est pour ça que je suis vivant. Et que le principe qui m'a créé, ce n'est pas un principe de néant. Et puis après tout, comme c'est absurde aussi, pourquoi si au début était le néant, pourquoi quelque chose serait-il sorti du néant? Le rien, c'est le rien. Pourquoi voulez-vous que quelque chose sorte du rien? Non. Au commencement était la lumière. Au commencement était Dieu vivant et qui fait émerger des choses vivantes. Et pour... avec l'objectif de les faire entrer dans une vie encore plus vivante, si j'ose dire. Voilà. Ça, c'est le message biblique, en tout cas. Hein. Là, je vais faire une petite farce, là. Hein. Certains se disent, parce que hier, on s'est encore posé la question. Bon, d'accord, je vais ressusciter. Et puis même, la Bible dit, je vais ressusciter avec un corps. C'est-à-dire, le mode de résurrection dans la Bible, ça ne consiste pas à dire, bon, ben, il y a une part de moi qu'on appellerait l'âme, une part un peu immatérielle qui va subsister. L'apôtre Paul dit non. Hein. Nous allons ressusciter des morts et nous aurons un corps glorieux. Moi, ce que j'en dis, c'est que l'esprit, c'est-à-dire ce qui fait notre lien avec Dieu, c'est la seule chose de moi-même qui est immortelle. Ce n'est pas mon corps. Il est mortel, C'est même pas mon âme au sens de mon psychisme. Même ça, c'est mortel. Mais le lien avec le Seigneur, c'est ça qui subsiste. Et le Seigneur, à partir de cet esprit, va recréer un David Lapierre. Ah, vous n'avez pas fini d'en voir. Et vous aussi, et tout le monde. Avec un corps glorieux. Alors on se dit, bon, avec quel corps? Moi j'aime bien, des fois on se dit, bon, avec ce corps-là, ouais, bon, à la rigueur, mais à quel âge? Hein? À 25 ans, j'aimerais bien. Il y en a qui disent 33 ans parce que c'est l'âge où le Seigneur est mort et ressuscité. À 33 ans, ça va encore. Hein? On était encore potable à cet âge-là. Eh bien non. Moi, je me dis qu'il y a quand même la réponse ici qui est donnée dans le chapitre de 1 Corinthiens 15 qui parle de résurrection des morts, verset 35. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? Insensé que vous êtes. Déjà, ça commence bien, hein? Préparez-vous. Dans la nature, voilà, il donne une comparaison pour faire comprendre. Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux, une autre encore, une autre aussi, les poissons. De même, nous distinguons les corps, entre guillemets, des astres, de ceux des créatures terrestres. Chacun d'eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé, infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Vous allez voir Jacques à la résurrection des morts. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué d'une seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doué de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. » Vous voyez, il emploie l'expression de la graine et de la plante. Eh bien, comment sera votre corps ressuscité? Il sera aussi différent de ce corps-ci que la plante est différente de la graine. C'est quand même écrit clairement. Donc n'imaginez pas que vous allez ressusciter avec ce corps-ci, fût-ce un petit peu rajeuni et réparé sur les bords. Moi, j'aurais quelques réclamations quant à des bricoles à réparer. Non, non, c'est pas ça du tout. Et pourtant, il y a un lien entre la graine et la plante. Une graine ne produit pas n'importe quelle plante, et la plante est bel et bien sortie de la graine, d'une certaine manière. Ce sera bien nous. Il ne va pas faire un être nouveau qui n'aura plus rien à voir avec David Lapierre. Mais enfin, il ressemblera à autre chose, hein. En mieux. Hein, en mieux, c'est mieux. Voilà. De temps en temps, vous savez, de plus en plus, moi, quand j'étudie la Bible, j'ai l'impression de la lire. Tout simplement, je dis, on lit, et on ne sait pas ce qu'on lit, on ne comprend pas ce qu'on lit. Et de plus en plus, moi, je lis en disant, qu'est-ce qui est écrit là-dedans que je n'avais pas lu avant, ou plutôt que j'avais lu et que je n'avais pas bien saisi. Ben, pour moi, c'est clair. Comment ressusciterons-nous avec un corps différent qui sera quand même issu de nous, donc quelque chose qui aura sa racine en nous, donc ce sera nous, mais nous, différents. Un corps régi par l'Esprit et un corps qui vivifie, c'est ce qu'il dit. Et moi, j'aime bien ça, le dernier, vivifier. Vous savez, vivre, c'est une chose, ça veut dire qu'il y a la vie. C'est, en moi, c'est déjà pas mal. Mais vivifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire fournir la vie, générer la vie. Dieu veut faire de nous des êtres pas seulement qui vivent correctement, des fois ça peut suffire à nos aspirations, hein. Je vis, si j'arrive à vivre à peu près comme il faut, bon, bah, ça va quoi, hein. Il y a des gens qui vivent mal. Mais il veut que nous soyons des gens qui génèrent la vie. C'est pourquoi on prie pour les malades et on demande au Seigneur qu'il guérisse. Parce que comme l'a dit Paul lui-même, nous avons les arts de l'esprit. Nous ne sommes pas encore entrés dans la gloire. Mais en même temps, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, il est comme ça, c'est un esprit de vie et un esprit qui vivifie. L'Esprit Saint est un esprit de résurrection. Quelque chose de la résurrection est déjà, de la vie nouvelle, est déjà entré en nous. C'est ce que veut dire la Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi des choses qui ne se font pas, quand quelqu'un est mort ou mourant, ou bien il y a quelque chose en lui qui est mort, c'est ce qui se passe quand on est malade ou bien quand on a des dépressions, on a quelque chose en nous qui n'arrive pas à vivre correctement, eh bien nous prions le Seigneur et on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de truc, on n'est pas des guérisseurs, nous. Mais nous invoquons l'esprit de vie, l'esprit qui vivifie, l'esprit qui fait revivre. Alors ce que j'aime bien dans les cimetières. Ézéchiel. Il faut relire Ézéchiel chapitre 37. Je ne vais pas le relire entièrement. Attendez, je vais le remettre. Voilà, je vais lire d'abord les versets 1 à 3. Vous savez, Ézéchiel, il a vécu à une époque terrible. C'est son peuple qui était presque anéanti. Le peuple d'Israël était presque anéanti et ce qui en restait avait été dispersé. Diaspora. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Alors c'est un grand prophète, que croyez-vous qui répond ? Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » D'un côté, on peut dire qu'il ne se mouille pas, mais d'un autre côté, il dit la vérité. Si on est face à la mort ou à ce qui est dégradé, qu'est-ce qu'on y peut ? Toi seul, éternel, tu le sais. Puis il me dit, et c'est là que c'est incroyable, il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Alors Dieu donne sa réponse, mais pour moi le plus extraordinaire, c'est qu'il dit au prophète, prophétise sur ces ossements. Vous voyez, ça c'est un élément de la résurrection. La résurrection appartient à Dieu. Bien sûr, c'est le pouvoir de Dieu et ce n'est pas le mien. Mais il nous dit quand même, prophétise. C'est-à-dire, toi, parle. Toi qui ne sais pas si le Seigneur va les faire revivre ou pas. Toi qui n'as pas le pouvoir, le moyen de le faire revivre, le Seigneur te dit quand même, prophétise sur les ossements desséchés. Et dis-leur, j'enverrai. Ainsi parle le Seigneur, on ne se donne pas la gloire à nous. J'enverrai sur vous un esprit et vous vivrez. Je prends au verset 11. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. Notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Ben moi, je crie ça dans les cimetières, là, au milieu des tombeaux. J'irai ouvrir vos tombeaux. Je mettrai en vous un esprit nouveau et vous vivrez. Alors quand je mourrai, mes enfants, ils vont me faire une stèle avec ça écrit dessus. Même mort, je vais les embêter. Ça. Enfin, j'y réfléchis. Moi, j'ai fait mon épitaphe. Je ne sais pas, quelque part, je veux que ce soit dit, je veux que ce soit écrit. Au milieu des tombeaux, j'irai ouvrir vos tombeaux. C'est le Seigneur qui dit ça. Et il nous demande de prophétiser, c'est-à-dire de nous approprier cette parole, pas comme si c'était nous, mais il faut que nous aussi, nous le disions. C'est ça, la vérité. La vérité, ce n'est pas le cimetière. C'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité de base, comme disait cet homme. Là, on vient du néant, on retourne au néant. Tant pis. Oh, il y a une histoire aussi qu'on lit dans les bandes dessinées chrétiennes Tournesol. Un homme qui avait écrit sur sa tombe, un athée, il n'y a pas de résurrection. Je ne sais plus comment il avait dit ça. Et puis, il avait fait mettre une chaîne autour de sa tombe. Tu vois, le contraire de ce que je dis. Puis un jour, la tombe, il y avait une fissure qui s'est apparue. Dans les fissures, il y a une graine qui a commencé à pousser. Et puis, le gardien du cimetière, il a vu ça, il l'a laissé faire. Puis la graine a poussé, elle est devenue une plante forte. Elle a fait éclater le tombeau. Voilà. Comme un petit signe de quelle vérité doit être proclamée. Alors, Évangile de Jean, chapitre 11. Oui, ça c'est un mot extraordinaire. C'est quand Jésus a ressuscité Lazare, son ami. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus, lui, il s'est attribué la résurrection et la vie. Vous voyez, dans Ézéchiel, il dit « C'est l'Éternel ». Moi aussi, je veux dire « C'est l'Éternel ». Ce n'est pas moi, même si nous devons prophétiser. Mais Jésus, lui, a dit, on discutait hier, est-ce que Jésus est Dieu ou pas, mais c'était l'un des versets qui était cité. En tout cas, Jésus, il prétend. Parce que qui peut oser dire ça ? « Je suis la résurrection et la vie ». Dit Jésus, celui qui place toute sa confiance en moi, la confiance, la fiance, confiance, la foi, c'est ça que ça veut dire. Et la foi en latin, c'est fides, la fidélité. Vous savez, manier le langage, c'est intéressant parce que tout ça, ça vient des mêmes mots, de la même racine. La foi, la fidélité, la confiance, tout ça, c'est des mots relationnels. Et celui... dit-il, qui place toute sa confiance en moi, vivra même s'il meurt. Waouh ! Mais c'est la promesse que Jésus nous fait. Voilà, carrément, ouvertement, celui qui place toute sa confiance en moi, vivra même s'il meurt. Même s'il meurt. C'est une des choses qu'on peut proclamer au cimetière. En sorte que peut-être je vais mourir. Eh bien, je vivrai. La foi, la confiance dit « je vivrai ». Je suis a priori pas encore sur le point de mourir, mais j'en ai vu. J'ai vu des gens mourir dans la foi. Je vous assure, moi, ça me... J'écarquille les yeux et je dis « pourvu que je sois comme eux ». Il y en a des croyants qui, dans leur dernier souffle, ils sont dans la foi, ils sont dans la confiance, ils sont dans la fidélité. Ils sont dans savoir que le Seigneur est avec eux. Et Jésus dit, celui-là vivra même s'il meurt. C'est la foi qui fait, c'est le lien avec Dieu, je vous dis, c'est ça. Et c'est le seul truc chez nous qui n'est pas corruptible. Notre lien, notre fidélité avec le Seigneur, notre fidélité, on ne va pas se vanter, mais le Seigneur qui, lui, est fidèle, génère aussi en nous cet élan de foi. La foi, c'est un don de Dieu, la fidélité. Il ajoute même « Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Vous avez bien lu ? « Ne mourra jamais. » Juste avant, il dit, il vivra même s'il meurt. Puis après, il dit, il ne mourra jamais. Pour moi, ça veut dire, il y a quelque chose qui ne meurt jamais et qui est cette fidélité de Dieu. Ensuite, je vais lire pour finir. Bon, je vais encore juste lire, avant de finir, un verset que j'aime bien lire aussi dans les cimetières. Jean, chapitre 8, Jésus parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Moi, j'aime bien dire, je l'ai dit quand Jean Lénard est décédé au cimetière, c'est le moment dans la tombe où ses yeux se ferment, la lumière n'est plus pour lui. C'est le moment où il ne va plus marcher nulle part. Et bien, c'est le moment où j'ai dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et, ça, et c'est pour quand, cette parole, cette promesse? C'est pour maintenant ou c'est pour seulement quand, après qu'on soit mort? Ben, si l'Esprit de Dieu nous est donné, c'est pour tout le temps. Voilà. Le don de Dieu, le don de la résurrection, le don pour aujourd'hui, pas seulement en attendant que je sois mort et que tout soit fini. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres. On peut se dire ça, hein? On peut se le dire pour aider dans la vie. Je ne suis pas là pour marcher dans les ténèbres, mais pour avoir, pour recevoir la lumière de la vie, celle qui ne s'éteindra jamais. Elle. Et enfin, on va lire Apocalypse, chapitre 20, parce qu'il faut en venir là. Ensuite, je vis, c'est la fin, c'est le jugement dernier. Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Voyez, là, il n'y a plus que sa présence qui compte. Même le ciel et la terre sont mortels aussi. Hein. Ils auront une fin. C'est ce que nous dit la Bible. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Et alors, je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ses livres. La mer avait rendu ses naufragés. Vous voyez, il y a des gens qui se disent, ah, on est enterré, et si on est incinéré, est-ce qu'on va ressusciter? Et les gens qui sont morts noyés parce qu'ils ont fait naufrage, si on se pose des questions comme ça, c'est qu'on n'y croit pas, hein, en la puissance de Dieu. Parce que c'est bien la mer, ceux qui sont disparus sans laisser de traces, quoi, ceux qui n'ont même pas de tombe. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. La résurrection, elle est universelle. Universelle. Tout le monde va ressusciter pour être jugé. Mais en Christ, est-ce qu'on n'est pas jugé en Christ? On est déjà jugé en Christ. La foi en Christ produit ceci, c'est que je reconnais que sur la croix est le jugement de mes péchés. Et je me repens de mes péchés. Et je reçois le pardon. Ceux qui sont en Christ vont entrer dans la vie directe. C'est ce qu'il nous dit. Parce que, non pas parce qu'on n'est pas jugé, parce que nous sommes déjà jugés. Et que notre jugement est en Christ, il l'a pris sur lui, c'est notre rachat, il a payé pour nous, il a payé notre faute pour nous. Et tous les autres qui n'ont pas cru, ils seront jugés selon leurs actes. C'est ce qui est écrit. Quel sera ce jugement? Ne répondons pas à la question. Et il y a des limites. Il y a des limites à ce que nous savons, ce que nous devons savoir, le jugement appartient à Dieu. Nous, on ne doit pas se dépêcher de condamner les gens à l'enfer. Ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Faut toujours laisser le dernier mot à Dieu. Lui, il connaît le fond des cœurs de chacun et de chacune. Moi, je ne le connais pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours rester modeste dans cette matière-là. Il y a des limites, je ne sais pas. Voilà. Mais il y aura un jugement et c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Puis, la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai un doute. Il y a une seconde mort. Et cette seconde mort, elle consiste à détruire la mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La mort et le séjour de mort sont jetés dans les temps de feu qui représentent la seconde mort. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien ? J'en sais rien. Allez, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas épiloguer parce que peut-être aussi c'est notre limite de ne pas savoir. En tout cas, c'est la mienne. Mais voilà, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous croyez qu'il est vivant ? Est-ce que vous avez foi, vous avez cette fidélité en celui qui est vivant et qui génère la vie ? Eh bien, Seigneur, je veux te prier que tu génères en nous la vie. Cela, nous ne le vivons pas de manière parfaite ici-bas. Parce que sinon, tout ce qui est mort, tout ce qui est dégradation, tout serait et seront entraînés, annihilés dans le torrent de vie. Mais Seigneur, nous te prions maintenant, toi qui nous as donné l'Esprit Saint, et bien que nous puissions vivre une part, déjà maintenant, de cette vie de l'Esprit. Seigneur, nous te prions pour Jacques, nous te demandons qu'il vive sa part de cette vie de l'Esprit, de cette vie nouvelle, de cette vie qui renouvelle. Et pour chacun, chacune de nous, Seigneur, que nous ayons aussi notre part, pas pour le plaisir de jouir de quelque chose d'agréable, mais pour le plaisir de témoigner que c'est vrai, que tu es vivant, et que c'est là-dedans que tu veux entraîner toute l'humanité. Amen.